enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Alléluia. Alors le message pour aujourd'hui, c'est achever la course et remplir son appel. Achever la course et remplir son appel. Nous sommes tous dans une course, dans un combat spirituel. Il n'y a aucune exception, nous sommes tous concernés. Voyez-vous, notre vie, c'est comme une course. D'autres diront plutôt marcher avec le Seigneur, marcher dans la vie, avancer, aller de l'avant. Et toutes ces notions, en fait, nous amènent à cette expression générale qui est la course ou un combat. Et nous sommes appelés à vivre pleinement notre vie et nous sommes appelés à achever la course et à remplir notre appel. Donc, je vous invite avec moi dans 2 Timothée 4 et au verset 7. 2 Timothée 4 et au verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Donc ici, l'apôtre Paul nous dit clairement, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et l'apôtre Paul parlera également à Timothée du bon combat de la foi. Donc nous sommes engagés dans une course, dans un combat. Et savez-vous que nous devons non seulement commencer la course lorsque nous venons au Seigneur, mais nous sommes aussi appelés à rester dans la course et à achever la course. C'est facile de commencer quelque chose, même dans notre vie quotidienne, notre vie courante, mais ça ne l'est pas toujours de l'achever. Parce que pour achever quelque chose, il faut être persévérant, il faut poursuivre, il faut se mettre en action. Et le but, l'objectif de ce message, eh bien, c'est ensemble de tirer quelques enseignements de la parole de Dieu pour nous aider à achever la course et à remplir notre appel. À remplir notre appel. Alors regardons une autre parole de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 14 et au verset 28 à 30. Luc 14, verset 28 à 30. C'est une parabole de Jésus dans laquelle il nous dit « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ?» De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever. Le message que le Seigneur transmet au travers de cette parole, c'est, avant de commencer quelque chose, voyez si vous pouvez l'achever, non pas pour nous décourager à commencer quoi que ce soit, mais pour nous lancer ce défi que si tu commences, il faut finir, parce que c'est un témoignage pour les gens qui sont autour de vous. Cet homme a commencé à bâtir et n'a-t-il pas pu achever? Et voyez-vous, il vaut mieux finir. Et si c'est pour ne pas finir, j'allais dire, il vaut même mieux ne pas commencer. Il est question ici de calculer la dépense. Ça signifie aussi qu'il y a un prix à payer. Il y a quelque chose qui va nous coûter. Voyez, suivre Jésus, ça suppose toujours un prix à payer. Et qu'est-ce que ça nous coûte de le suivre? Ça nous coûtera tout. Regardez juste avant cette parole de Jésus dans Luc 14 toujours, à partir du verset 25. Il nous est dit que de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. » C'est une parole qui peut sembler dure, mais elle nous appelle à la consécration. Lorsque nous commençons à suivre le Seigneur, nous ne pouvons pas nous contenter de le suivre simplement à moitié. Simplement un petit peu, simplement pour nous inscrire dans une démarche religieuse ou chrétienne. Lorsque nous suivons le Seigneur, nous devenons des disciples. Or, un disciple du Seigneur, c'est quelqu'un qui accepte de laisser tout ce qui est à lui pour suivre Jésus, pour entrer dans les traces de son Maître, pour marcher pleinement dans les voies de Dieu. Il y a certaines traductions qui rendent ici « si quelqu'un veut me suivre sans haïr son père, sa mère, sa famille, etc. » Alors, bien évidemment, il ne faut pas se méprendre ici. Ce n'est pas un appel à la haine, d'accord ? Mais c'est plutôt un appel à, justement, préférer Dieu. Nous sommes appelés à honorer nos familles, à aimer notre prochain, et même à aimer notre ennemi. Donc, il serait contradictoire que Jésus nous enseigne d'une part à aimer nos ennemis, et qu'ensuite il nous dise « mais si tu veux me suivre, il faut que tu haïsses tous ces gens-là. » Non, le message que Dieu veut transmettre ici, c'est « si tu veux me suivre, il faut me mettre à la première place, il faut m'aimer avant tout, même avant ta famille, même avant ton épouse, même avant tes enfants, et même avant toi-même. » Donc nous devons mettre les choses à leur place. Il y a un prix à payer. Et j'allais dire ça, c'est le premier prérequis. Il y a un prix à payer si vous voulez marcher avec Dieu. Si vous voulez achever la course et remplir votre appel, vous avez besoin de renoncer. Renoncer à vous-même. Renoncer à ce qui vous est cher pour épouser les objectifs de Dieu, pour épouser la vision que Jésus a mise devant vous, a placée devant votre vie. Il y a une course dans laquelle nous sommes engagés. Il y a un appel de Dieu que nous devons remplir. Et il ne s'agit pas seulement de commencer, mais de l'achever. Matthieu 22, au verset 14. Nous allons regarder plusieurs paroles de Jésus, parce qu'il est important de nous appuyer solidement sur la parole de Dieu avant de vouloir avancer des principes. Vous savez, le but de notre ministère et le but normalement d'un prédicateur, c'est pas simplement d'avancer des principes, c'est pas simplement d'avancer des bonnes idées, c'est pas simplement d'amener un enseignement quelconque, mais c'est d'amener la parole de Dieu, d'en tirer les principes et en fait d'appliquer la parole à la vie quotidienne. Et si vous appliquez les principes de la parole de Dieu à votre vie, vous allez devenir capable de marcher dans les voies de Dieu, vous allez pouvoir achever la course. Alléluia. Alors Matthieu 22, 14, c'est une parole très connue qui dit « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Et le sens de cette parole, c'est que beaucoup commencent à marcher, mais peu achèvent la course. Certainement que vous connaissez quelqu'un qui a commencé sa marche spirituelle, quelqu'un qui peut-être est venu au Seigneur, qui a commencé un certain temps à marcher avec Dieu, parfois même qui a servi Dieu d'une manière ou d'une autre. Et puis tout d'un coup, on ne les voit plus. Tout d'un coup, les gens se retirent. Tout d'un coup, les choses s'arrêtent. Ils n'ont pas achevé leur course. Ils n'ont pas rempli leur appel. Au début, ils sont tout feu, tout flamme. Ils commencent à marcher, mais quelque chose, à un moment donné, les empêche de poursuivre la course et de l'achever. Et il y a pas mal de gens qui sont dans cette situation. Et parfois même nous-mêmes, en tant que chrétiens, peut-être nous n'abandonnons pas le Seigneur, mais il y a des choses dans lesquelles nous nous relâchons. Il y a des choses dans lesquelles nous sommes aujourd'hui brûlants et zélés, mais au bout de 1, 2, 3, 4, 5 jours, nous commençons déjà un petit peu à nous relâcher. Nous commençons à ne pas poursuivre cette vision et nous commençons quelque part à rester sur le bord du chemin. Nous n'achevons pas notre course. Mais l'objectif de ce message aujourd'hui, c'est pas de condamner quelqu'un. C'est pas non plus de s'apitoyer, de dire « oui, c'est trop difficile, c'est pas facile de suivre le Seigneur, c'est dur, c'est seulement quelques-uns qui vont y arriver, c'est réservé à quelques-uns ». Non, nous pouvons tous achever notre course et nous pouvons tous remplir notre appel. Et nous allons ensemble être porteurs d'un message positif. Et si quelqu'un s'est écarté à un moment donné, soit même du Seigneur, ou soit d'un certain service, d'un certain appel qu'il a reçu, eh bien nous allons voir ensemble comment achever la course, et je vous invite et je vous exhorte aujourd'hui à reprendre votre marche, à retourner dans la course, à revenir dans la carrière qui vous est proposée, qu'il y ait un courage nouveau, une force nouvelle pour achever la course, parce que Dieu nous a appelés à rien d'autre que la réussite, à rien d'autre que l'achèvement, l'accomplissement de la vision qu'il a pour nous. Nous sommes appelés et nous pouvons achever la course et remplir notre appel. Mais il y a un autre excès dans lequel il ne faut pas tomber, qui serait celui de vouloir précipiter les choses. Avant d'entrer dans une dimension supérieure, il nous appartient d'accomplir l'étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui. c'est assez visible et c'est vrai dans le domaine scolaire ou universitaire. Avant de passer à la classe supérieure, il faut réussir la classe dans laquelle on est. Avant de passer à un module supérieur, il faut valider certaines unités d'enseignement, certains acquis, avant de passer au suivant. Et si c'est établi comme ça, c'est parce que nous ne pourrions pas opérer correctement dans le niveau suivant si nous n'avons pas accompli le niveau dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et ça, c'est une loi spirituelle. Il y a des gens qui ne trouvent pas leur place, qui ne trouvent pas leur appel, qui ne savent pas ce que Dieu attend d'eux. Mais plutôt que de chercher, de dire « mince, à quoi est-ce que je suis bien appelé ?» Servez dans les choses où vous pouvez servir aujourd'hui. Et si vous connaissez l'appel de Dieu pour votre vie, peut-être que c'est un appel à l'un des cinq ministères, mais peut-être que c'est un appel à tout autre service, parce que dans la parole de Dieu, dans les épîtres, qui nous parle beaucoup de l'Église et plus généralement du ministère des enfants de Dieu, nous voyons qu'il y a effectivement les cinq dons ministères, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur, mais nous voyons aussi qu'il y a toute une multitude de dons et de services qui sont utiles au corps de Christ et qui sont même utiles à la société aujourd'hui. Et si vous connaissez votre appel, peut-être qu'il y a une finalité ultime qui est, je donne un exemple, de prêcher devant 10 000 personnes. Mais vous n'allez pas commencer par vous trouver sur une estrade avec 10 000 personnes en face de vous. Nous avons besoin de passer par des étapes que Dieu met sur notre chemin et qu'il ne faut pas manquer ou brûler, mais qu'il faut achever successivement et ça va nous qualifier pour des choses plus grandes. Là où le Seigneur t'a placé aujourd'hui, vis-le pleinement, tu te prépares pour l'étape suivante. Mais si on essaye de s'auto-placer dans une étape que nous pensons être la bonne ou l'objectif, eh bien, bien souvent nous ne sommes pas prêts et nous ne tenons pas la route. Et il y a malheureusement beaucoup, beaucoup trop d'enfants de Dieu et même de ministères qui ont voulu se positionner quelque part, mais qui n'ont pas suivi la voie que Dieu a tracée pour eux. Et même s'ils avaient un appel authentique, ils n'ont pas pu se qualifier pour avoir une onction suffisante, mais aussi un caractère suffisant, un cœur suffisant pour remplir leur appel et pour entrer dans cette dimension-là. Donc soyons sages, ne voulons pas brûler les étapes, mais allons pas à pas. Donc dans cette marche pour achever la course, il faut faire un pas après l'autre. Regardons Matthieu 25 et au verset 21. Matthieu 25, 21. Donc il est question d'une parabole bien connue d'un maître qui devait partir en voyage et qui a distribué des talents à plusieurs de ses serviteurs. Et donc certains serviteurs ont fait fructifier leurs talents et un autre l'a caché en terre. Mais ce n'est pas vraiment l'objet aujourd'hui de ce que je voudrais souligner dans ce passage. J'aimerais souligner simplement le verset 21. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Et c'est une image de l'appel de Dieu dans notre vie et de ce que Jésus voudrait pouvoir nous dire. Vous savez, à aucun moment le Seigneur n'est là en train de se frotter les mains et de se dire « pourvu qu'un tel fasse une erreur, pourvu que mon serviteur passe à côté de ce que j'ai préparé pour lui, comme ça je pourrais le châtier, je pourrais me venger ». Non, notre Seigneur est plein d'amour. Et s'il nous appelle et s'il trace une voie devant nous, c'est parce qu'il sait que c'est le meilleur chemin que nous puissions emprunter pour devenir capables et efficaces de remplir l'appel qu'il a prévu pour nous. Et son désir, son aspiration, c'est de pouvoir nous accueillir, nous féliciter, nous dire « bon et fidèle serviteur ». Tu as été fidèle dans les petites choses, je t'en confie de plus grandes. Mais remarquez aussi que si nous n'achevons pas, ou si nous ne sommes pas fidèles dans le peu, nous ne verrons jamais le plus grand. Et quelquefois, certaines personnes commencent dans ce qu'on peut appeler des petites choses, mais ils se lassent, ils se détournent, inévitablement. Il n'arrive pas dans les plus grandes choses. Vous-même, si vous savez ou croyez appelé à un certain ministère, cela peut commencer par un ministère d'aide, par une chose pratique dans l'Église. Nous avons besoin de faire un pas après l'autre. Vous savez, moi-même, mon témoignage personnel, j'ai eu très jeune le désir de servir Dieu et j'ai eu très tôt dans mon cœur une vision et un appel au service de Dieu, qui s'est petit à petit éclairci, développé, précisé, et qui a été confirmé par différents moyens que Dieu a de nous parler. Mais avant d'entrer dans ces choses, avant d'être là où je suis aujourd'hui, et avant d'être pleinement dans la mission que le Seigneur a mise sur ma vie, parce qu'on n'y est pas encore complètement, mais je suis passé par beaucoup de choses. J'ai fait des services pratiques. Des choses que certains considèrent comme petites, mais laissez-moi vous dire que ce sont des choses de grand prix devant Dieu. Et si vous êtes fidèle dans ces choses qui vous semblent petites, il va vous en confier de grandes. Avant de diriger la louange, j'ai commencé par simplement afficher les chants sur le mur. Mais si je n'avais pas été fidèle dans ces petites choses, je n'aurais pas évolué. Plus tard, j'ai prêché au travers d'écrits sur Internet. Et puis j'ai eu l'occasion de prêcher dans des réunions de maison, ensuite dans des réunions d'église, puis dans d'autres églises où j'étais invité, ensuite dans des conférences, dans différents contextes. Et pas à pas, le Seigneur a dirigé les opérations. Et il m'a amené d'étape en étape où un secret, ne résistez pas à l'appel de Dieu. Mais si vous ne résistez pas à l'appel, ça ne veut pas dire projetez-vous dans ce que vous pensez à son appel. C'est ne résiste pas à l'appel de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui. Et je vous dis humblement que l'une des qualités que je désire préserver dans ma vie, c'est qu'à aucun moment je n'ai recherché à m'établir moi-même ou à viser une place quelconque. Mais je suis simplement resté fidèle dans ce qui m'a été donné. Et cela s'est vérifié dans ma vie. Et même dans mon vécu professionnel, j'ai commencé par être employé dans un magasin où je faisais de tout, je faisais de la caisse, je faisais même le nettoyage du magasin, je remplissais les rayons. Et ensuite, je suis passé à un poste à responsabilité et finalement, j'ai même eu la direction d'un magasin. Plus tard, j'ai repris un poste où j'étais simplement un employé et à nouveau, j'ai pu avoir la responsabilité du magasin. Et petit à petit, j'ai une évolution professionnelle qui vient de ce principe, qui est un principe spirituel, mais qui a des retombées dans le monde naturel. Donc, nous avons besoin d'être fidèles parce que Dieu honore toujours notre fidélité. La fidélité aujourd'hui dans ce que tu fais va garantir ton avenir. Donc nous avons besoin de commencer, mais aussi d'achever, d'être fidèles, parce que c'est ça qui va nous qualifier pour la suite. Quand Dieu nous positionne dans un service, c'est pour servir. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on est là et on dit « Non, moi je suis appelé à ça, je fais rien d'autre. » Nous avons besoin de garder un esprit de serviteur et de faire plus que le minimum. Même si vous êtes appelé à prêcher, et peut-être vous êtes dans le ministère d'un ancien ou même d'un pasteur, vous ne pouvez pas vous dire « Moi, je suis seulement le pasteur, je viens le dimanche, j'ouvre ma Bible, je prêche, je vais dans mon bureau, je reçois les personnes, je fais mon petit boulot, point. » Que vous soyez pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, cela ne vous exclut pas de participer aux choses pratiques. Ça ne va pas être votre activité principale. Alors d'ailleurs, nous le voyons, et nous n'allons pas étudier ça maintenant, dans Actes 6, où les apôtres ont été obligés d'établir des personnes pour servir aux tables parce qu'ils ne pouvaient plus se consacrer à leur ministère. Mais ce qui veut bien dire qu'avant d'établir ces gens-là, ils étaient à la fois dans leur ministère d'enseignement de la parole de Dieu, dans leur ministère d'étendre le royaume, et en même temps, ils étaient dans le ministère pratique d'aider les veuves, les orphelins, ils étaient dans le ministère pratique de servir à manger aux gens. Donc, quel que soit votre niveau, vous devez garder un cœur de serviteur. Et si vous êtes peut-être en train de dans le ministère des enfants, ou même dans l'équipe de ménage d'une église, faites-le de tout votre cœur, ayez un cœur de serviteur. Un cœur de serviteur, c'est ça qui vous qualifie pour la bénédiction. Et laissez-moi vous dire qu'il vaut mieux être un excellent nettoyeur d'église qu'un mauvais ministère. Encore quand je dis ministère, le terme de ministère signifie service. Je veux dire ministère don, ou peut-être les personnes des ministères plutôt de la parole. Il vaut mieux être un bon enseignant parmi les enfants qu'un mauvais enseignant dans une école biblique parce que tu n'as pas été appelé à le faire. Et même chez les enfants, on ne fait pas que jouer avec les enfants ou que enseigner les enfants. Il faut aussi être prêt et disposé à préparer la journée qu'on va avoir avec eux, à s'occuper d'eux et à ranger les choses. Ayons un cœur de serviteur. Soyons fidèles et volontaires. Si, comme dans ce passage, Jésus peut nous dire « bon et fidèle serviteur », nous nous positionnons, nous nous mettons dans la bonne démarche pour aller de l'avant vers ceux à quoi Dieu nous a appelés. Achever la course et remplir notre appel. Donc allons-y pas à pas. Et une autre clé, un autre principe, c'est d'honorer et d'apprécier ce que nous avons. Colossiens 4 au verset 17. Colossiens 4, 17. Nous voyons cette parole très clairement. Donc c'est l'apôtre Paul qui a écrit son épître et qui s'adresse particulièrement à un croyant de l'Église qui s'appelle Archippe. Et il lui dira « Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. » Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Et nous pouvons y voir plusieurs choses. Donc, vis-à-vis du service de Dieu ou du ministère, nous avons une responsabilité. Mais dans cette expression « prends garde », il y a aussi le sens de « sois attentif, serre contre ton cœur ». Fais attention au sens d'aimer, de tenir ferme, d'apprécier et de s'attacher au ministère que nous avons reçu. Ce que vous avez aujourd'hui vous prépare pour demain. Ça ne va pas commencer par la fin, il faut commencer là où tu es aujourd'hui. Vous savez, Élisée, qui ensuite est devenu un grand prophète, avait cet appel de prophète sur sa vie depuis longtemps. Mais pendant plusieurs années, il a servi Élie. Il a servi à côté d'Élie. Alors que lui-même avait un ministère de prophète, mais au temps voulu par Dieu, il a reçu l'onction du prophète. Il a même reçu une double onction. Et il y a malheureusement beaucoup de gens qui tournent en rond, qui essayent de se faire une place de prophète, alors qu'ils n'ont jamais commencé par servir. Mais si vous êtes fidèle dans le service, vous allez être élevé progressivement. C'est Dieu qui établit. À aucun moment ce n'est nous qui choisissons. À aucun moment nous ne pouvons dire « Ah ben tiens, j'aimerais bien être un évangéliste. Mais tiens, j'aimerais bien être un prophète. Tiens, j'aimerais bien être un pasteur. » Ce n'est pas nous qui nous positionnons et qui choisissons. Mais c'est un ministère ou un appel que nous avons reçu dans le Seigneur. Donc nous avons besoin de chercher à nous positionner dans ce que le Seigneur a désigné pour nous. Il y a un appel de Dieu pour notre vie. Donc, mettons-nous et soyons attentifs au ministère que nous avons reçu dans le Seigneur. Mais ne cherchons pas à viser autre chose. C'est une responsabilité de remplir l'appel que nous avons reçu. Cet appel, celui que nous avons reçu, non pas l'appel de quelqu'un d'autre. Chacun est responsable de ce à quoi il a été appelé. Vous savez, ce ne sont pas le nombre d'œuvres que nous aurons faites qui seront jugées, mais la correspondance entre ce à quoi nous sommes appelés et ce que nous aurons effectivement fait. Les dons et l'appel ne tombent pas sur nous de façon hasardeuse. Le Seigneur nous les communique, nous les recevons. Et notre désir doit être de nous inscrire dans ce que le Seigneur a préparé pour nous. Nous sommes dans un combat, nous courons une course et nous sommes appelés à l'achever, à remplir notre appel. Restons sur le bon chemin. Restons sur le bon chemin. Et savez-vous quoi, si nous marchons dans ce que le Seigneur a préparé pour nous, si nous courons la course, nous ne combattons pas pour des cacahuètes. Nous ne sommes pas seulement en train de vivre au hasard simplement avec un petit peu mieux ou différemment sans avoir rien devant nous. C'est vrai que la vie chrétienne n'est pas faite de profit où nous ne servons pas pour obtenir quelque chose. Mais n'empêche que Dieu a désigné des récompenses. Dieu a désigné des récompenses, couronnes. Et nous sommes invités à courir la course comme ayant un prix à gagner. Non pas par nos propres forces, mais parce que Jésus nous en rend capables. Sans lui, nous voyons dans l'évangile de Jean, nous ne pouvons rien faire. Donc cette couronne que nous recevons, ce n'est pas un mérite pour nous-mêmes, mais c'est une distinction, une récompense de la fidélité par rapport à ce que Dieu a placé en nous. Donc prenons garde, veillons. Une autre manière de prendre garde au ministère que nous avons reçu du Seigneur pour bien le remplir, c'est aussi de ne pas s'en détourner ou de ne pas faire de compromis. L'un des dangers pour ne pas finir la course, c'est le compromis. Les compromis ne nous permettent pas d'achever la course. C'est vrai que dans la vie sociale ou dans les relations, parfois on trouve des terrains d'entente, des compromis ou des concessions. Si par exemple le mari souhaite faire telle chose et l'épouse telle autre chose en même temps, ils vont discuter, ils vont trouver un terrain d'entente, un compromis, et chacun sera satisfait. Quelquefois il faut négocier, et c'est bon comme ça. Mais en ce qui concerne le domaine spirituel, il n'y a pas de place pour le compromis. Les compromis nous empêchent de remplir notre appel et vont nous perdre. Les compromis vous empêchent de remplir votre appel et vont vous perdre. Même dans des choses qui paraissent très petites. Oh, un petit peu de voyance, ça c'est pas bien grave. Un petit peu d'occultisme. Un petit peu d'infidélité. un petit peu de mélange doctrinal. Tout cela, ce sont des compromis qui vous empêchent d'achever la course et de remplir votre appel. Et nous avons des exemples assez tragiques dans la parole de Dieu de personnes pourtant authentiquement appelées par Dieu, pourtant authentiquement serviteurs de Dieu, mais qui sont tombés à un moment donné dans le compromis. Et à cause de cela, ils en ont payé un lourd tribut. 2 Chroniques 18, regardez avec moi cette histoire qui va nous servir d'exemple. Vous savez, l'Ancien Testament, parfois les gens portent un petit peu un regard même négligent, parce qu'ils disent oui, l'Ancien Testament, c'est la vieille alliance, c'est pas tellement intéressant parce qu'on est dans la nouvelle alliance, plutôt le Nouveau Testament qui nous intéresse. C'est vrai, mais laissez-moi vous dire que le nouveau sans l'ancien, il nous manque quelque chose. Parce que l'Ancien Testament nous révèle beaucoup de choses sur le Seigneur, nous montre beaucoup d'exemples, tantôt des exemples à suivre, et tantôt aussi des exemples à ne pas suivre. Et ici, dans 2 Chroniques 18, il nous est parlé de Josaphat, qui est roi, et de Akab, qui est roi aussi. Parce qu'en fait, à cette époque-là, en Israël, il y avait 2 royaumes, le royaume qu'on appelait d'Israël et puis le royaume de Juda. Donc à un moment donné, le peuple d'Israël était géré comme ça, et bien que ce n'était pas au départ la volonté de Dieu, le peuple a réclamé à avoir un roi, Dieu le leur a permis. Donc plus tard dans l'histoire ici, il y a 2 royaumes séparés qui ont chacun leur roi, et malheureusement la plupart du temps, les rois ne marchaient pas totalement dans les voies de Dieu. Et Dieu avait établi des rois et puis des prophètes. Et le rôle du prophète, c'était d'avertir le roi, de le conduire dans les voies de Dieu. Mais bien souvent, il ne les écoutait pas. Et malheureusement, certains de ces prophètes aussi se sont compromis. Ont préféré donner des paroles qui plaisaient à leur roi plutôt que de donner la vraie parole de Dieu. Et il y a des rois qui se sont détournés de Dieu même pour servir des idoles. Et malheureusement, Akab en fait partie. Il servait des idoles, il était entouré de faux prophètes. Mais Josaphat, en ce qui le concerne, marchait dans les voies du Seigneur. Il avait établi la loi de l'Éternel dans son royaume, son cœur était droit. Mais malheureusement, dans 2 Chroniques 18, ici, il va faire une erreur, il va faire un compromis. Et au final, il s'en sortira très mal. Donc, lisons cela simplement. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire. Donc, les richesses et la gloire de Josaphat ne lui sont pas venues par lui-même. Elles lui sont venues comme rémunération, comme récompense, parce qu'il servait Dieu avec un cœur intègre. Mais il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie, et Akab tua pour lui et tout le peuple un grand nombre de brebis et de bœufs, et il le sollicita de monter à Ramoth en Galade. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade ?» Josaphat lui répondit, « Moi comme toi, et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. » Donc là, on voit plusieurs éléments. Josaphat va auprès d'Akab, certainement, c'est peut-être une visite comme une autre, et Akab le reçoit bien, il lui sert à manger, et il va lui le solliciter de monter à Ramoth en Galade. En d'autres termes, il va lui faire passer l'idée, il va le pousser à venir avec lui à la guerre et simplement suivre cette voie. Il va dire « Oui, je suis comme toi et mon peuple, c'est comme ton peuple, donc on y va ensemble. » Et plus loin, dans ce passage, on voit qu'ils vont consulter les prophètes, mais des faux prophètes qui vont commencer par dire « Oui, vous allez réussir au combat, le Seigneur avec toi, il n'y a pas de problème. » Et ensuite, il y a un vrai prophète. C'est Michée qui va dire la vérité. Il va dire que voilà, votre peuple va être dispersé, elles vont être comme un peuple qui n'a pas de berger et tu vas à la défaite. Et malheureusement, le roi ne va pas l'écouter. Il va le faire emprisonner, il va le faire traiter comme un malfrat, mais la vérité ne va pas tarder à triompher. Et plus loin dans la fin de ce chapitre, on voit que finalement Akab est mort au combat. Il va mourir. Verset 34, le combat devint acharné ce jour-là. Le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir et il mourut vers le coucher du soleil. Chapitre 19, Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Donc Josaphat, lui, s'en est tiré, mais on peut comprendre qu'il s'en est tiré de justesse. et ça a failli lui coûter la vie. Et Josaphat a été persuadé d'aller au combat, et bien souvent des personnes bien intentionnées qui ont même un appel de Dieu se laissent malheureusement persuader par quelqu'un, détourner de la course, se laissent emporter quelque part où Dieu ne les envoie pas. Et parfois, il y a des gens pour les encourager, pour dire « Oui, c'est ce que le Seigneur veut pour toi. » Et du coup, cela les rend insensibles à la voix de Dieu à l'intérieur d'eux et à la voix de Dieu au travers peut-être de quelqu'un d'authentique qui va dire « Attention, ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour toi. » Au verset 3, il va dire « Je suis comme toi et mon peuple, c'est comme ton peuple. » En gros, ce qu'il dit, c'est « Mais on est tous des frères. » Et malheureusement, ça nous rappelle certaines choses. Pourquoi ne pas travailler avec tout le monde, avec toutes les églises, avec toutes les religions? Après tout, nous sommes tous des frères. Grand danger. Les associations spirituelles ne se font que sur une direction divine. Parce que s'associer sans direction divine, c'est très dangereux. Et ça ressemble beaucoup à du compromis. Et nous ne devons pas tomber dans les compromis, frères et sœurs. Nous devons rester attachés à la parole de Dieu qui est vivante et permanente. Nous devons nous attacher à la vérité à tout prix. Je ne dis pas de nous isoler. Nous devons aimer, nous devons rester fidèles dans l'appel que nous avons reçu. Amen. Ça a coûté très cher à Josaphat, très cher. Plus loin, dans 1 Roi 13, on voit encore une histoire un petit peu dans le même état d'esprit. On a Jéroboam, qui était roi en Israël, qui lui aussi a abandonné Dieu et s'est mis à adorer les idoles. Et on voit au verset 1 à 2... « Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la porte de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. » Donc les parfums qui sont en train d'être brûlés sur l'autel, comprenez bien que ce n'est pas l'autel de Dieu, mais ce sont à des idoles qu'ils sont destinés. « Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. » Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et ce même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé, voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Donc il vient pour annoncer un jugement, et une parole qui doit s'accomplir. Et elle s'est accomplie, puisque plus tard dans l'histoire d'Israël, il y a effectivement eu le roi Josias. Et donc ce prophète authentique est envoyé par Dieu pour annoncer ce jugement. Et plus loin, nous voyons que l'ordre que Dieu lui a donné, verset 9, « Tu ne mangeras pas de pain et tu ne boiras pas d'eau. Tu ne prendras pas par ton retour le chemin par lequel tu es allé. » Il s'en alla donc par un autre chemin. Il ne prit pas le chemin par lequel il était venu à Bethel. Donc jusqu'à là, il a obéi. Il a délivré la parole que Dieu l'a envoyé délivrer. Il n'a pas pris de pain, il n'a pas pris d'eau, et il est rentré par un autre chemin. Jusqu'à là, tout va bien. Mais il nous a raconté plus tard qu'il y avait un autre prophète, et ce prophète a voulu inviter l'authentique prophète de Juda à venir chez lui. Et nous voyons au verset 18 qu'il lui dira « Moi aussi je suis prophète comme toi ». Et un ange m'a parlé, et il m'a dit « Ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange et boive de l'eau ». Il lui mentait. Et malheureusement, nous rencontrons parfois des situations comme cela. Nous avons un appel de Dieu, nous sommes envoyés dans une mission pour faire une chose. Et quelquefois, on se trouve confronté à quelqu'un qui va dire « Mais moi aussi, je suis serviteur de Dieu comme toi. Moi aussi, j'ai l'appel de Dieu. Peut-être même moi aussi, j'ai une onction. Et le Seigneur m'a dit ça. » Mais le Seigneur n'a qu'une seule parole. Et si Dieu a mis dans ton cœur une parole, une vision, un appel, ne te laisse pas détourner. Ne te laisse pas détourner. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut entretenir jalousement ou avec orgueil une parole que nous tenons pour venir de Dieu. Mais lorsque Dieu parle dans votre cœur, lorsque Dieu confirme cette parole, cet appel, personne ne peut venir et vous dire « Dieu m'a dit ça ». Parce que lorsque Dieu vous parle en vertu de la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il nous parle directement et premièrement. Et la parole des ministères prophétiques, ou la parole des frères et sœurs, la parole des conseillers sur direction du Saint-Esprit, vient pour appuyer ce témoignage, ou quelquefois vient pour nous mettre en garde, mais nous ne devons pas accorder plus d'attention à ce que quelqu'un d'autre nous dit qu'à ce que Dieu nous dit à nous-mêmes. Autrement dit, lorsque quelqu'un vous dit « Moi, Dieu m'a dit ça pour toi », on ne va pas le rejeter complètement, mais on va se placer devant Dieu et dire « Bon Seigneur, moi je crois dans mon cœur ceci, je crois avoir reçu ça de ta part, un tel me dit autrement, alors Seigneur, s'il te plaît, conduis-moi, s'il te plaît, montre-moi la voie à suivre. » Mais ne vous détournez pas facilement de ce que Dieu vous a dit. Comme ce prophète a été mis au défi, il lui dit « Oui, mais moi aussi je suis un prophète. » Et plus là on voit malheureusement que le prophète donc venu de Juda va suivre cet autre prophète qu'il a invité. Il va manger du pain et boire de l'eau avec lui. Et au verset 20, on voit la conséquence. « Comme ils étaient à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné, que tu as mangé du pain et bu de l'eau, dans le lieu dont il avait dit, tu n'y mangeras pas et tu n'y boiras pas, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. » Ensuite, au verset 24, on voit que l'homme de Dieu s'en alla. Il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Ça lui a coûté sa vie. La désobéissance a coûté sa vie. Pensez-vous que ce prophète a accompli son appel, qu'il a achevé sa course? Non. Il a commencé. Il a bien commencé, mais à un moment donné, il s'est laissé détourner. Il a fait un compromis. Il s'est dit « Oui, après tout, c'est un prophète. » Mais il n'a pas consulté la voix de Dieu. Et nous devons être vigilants à ne pas faire cette erreur, comme il est dit aux Galates, de commencer par l'esprit et de finir par la chair. Soyons vigilants, attachons-nous à l'appel de Dieu pour pouvoir achever la course, remplir notre appel, parce que le compromis ne nous permettra pas d'avancer. Ne nous permettra pas d'avancer. Si nous ne sommes pas dans le compromis, nous atteignons le but. Mais si nous faisons un petit peu de mélange parce que nous pensons que ça fera bien peut-être vis-à-vis des gens, eh bien nous ratons complètement l'appel de Dieu pour notre vie. La fidélité à Dieu va faire la différence. Soyons fidèles du début à la fin. Le fidèle achève la course. Alléluia. Alors, marchons pas à pas, marchons dans l'appel que nous avons reçu aujourd'hui qui va nous qualifier pour la suite. Ne faisons pas de compromis, ne nous laissons pas détourner et visons le but, gardons le but sous les yeux. 1 Corinthiens 9, 24 nous parle encore de cette course dans laquelle nous sommes engagés. 1 Corinthiens 9, 24 « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. » Donc nous ne courons pas non plus pour des cacahuètes, nous courons pour un prix éternel. Courons comme si nous étions le seul qui puissions remporter le prix. Soyons déterminés. Vous savez, dans une compétition, on parle des vainqueurs, mais on a déjà oublié tous les autres participants. Mais le prix, c'est une couronne incorruptible que nous aurons dans l'éternité. Verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Marchons, courons, visons le but pour obtenir cette couronne incorruptible. Paul a combattu le bon combat, il a achevé sa course. Comme nous l'avons vu en introduction dans l'épître à Timothée et dans l'épître aux Philippiens, il déclare aussi Philippiens 3, versets 13 et 14. « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc visez le but, courez vers le but. Si nous ne visons pas de but, nous n'accomplissons rien. Mais courez avec un but, ayez une vision et achevez la course. Acte 20, 24 encore. Je sais que je passe beaucoup de passage en passage, mais c'est bon de nous appuyer dessus et de voir l'exemple. L'exemple de ceux qui nous ont précédés. Acte 20, verset 24. « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. » Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Donc Paul connaissait son appel, il connaissait la course dans laquelle il était engagé. Et nous avons tous un appel. et nous avons besoin de tendre à achever la course, à atteindre le but, à atteindre le but. Nous sommes tous participants au royaume de Dieu. Atteignons le but, quelle que soit notre part, et marchons dans la persévérance. Dans la persévérance. Hébreux 12. On y voit encore un principe, un encouragement. Hébreux 11, juste avant, nous parle de ce qu'on appelle les héros de la foi qui ont obtenu les promesses parce qu'ils ont eu la foi et parce qu'ils ont persévéré. Donc Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Donc qu'est-ce qu'on fait? On rejette le péché, on rejette le compromis et on court avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert sur la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc Jésus a rempli sa course, nous sommes appelés à remplir notre course. Avec fidélité, avec persévérance. Si nous sommes fidèles, nous parviendrons à l'objectif. À l'objectif. Et dans Actes 20, 24, que nous avons vu tout à l'heure, Paul disait aussi qu'il a rempli sa course avec joie. Et la joie qui n'est pas simplement un sentiment, mais qui est un fruit de l'esprit. La joie qui est spirituelle, qui s'élève de notre esprit. Ce n'est pas la joie d'un amusement ou d'une émotion, mais c'est la joie qui vient du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et nous pouvons courir avec joie, nous réjouir. Vous savez, les difficultés que nous rencontrons ne doivent pas nous abattre, parce que notre joie ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de celui en qui nous avons cru, elle dépend du royaume auquel nous appartenons. Et ce royaume-là n'est pas ébranlé. Nous pouvons marcher dans la joie. Et achever la course. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Marcher dans la joie, qui n'est pas un sentiment, mais qui découle de notre relation avec le Père, qui vient d'une forme de satisfaction, d'être dans la voie de Dieu, d'être en communion avec Dieu, de remplir notre appel, de courir la course. Je vous encourage vraiment à achever la course, à marcher avec Dieu, à marcher pas à pas, un pas après l'autre. À honorer, à apprécier ce que vous avez reçu, à prendre la responsabilité de votre appel à vous, individuel, personnel, et tous ensemble, si chacun accomplit sa part, tous ensemble nous accomplissons l'appel ultime, qui est la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Donc chacun dans son appel, en étant vigilant, en rejetant le péché, en ne faisant pas de compromis, mais en nous fixant sur le Seigneur pour viser le but, pour marcher avec persévérance et avec joie, et nous allons achever la course. Alléluia.